Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h. 18h.
Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mot.
Moi, je vais te mettre au rushing. Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici. Si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure.
Avec
moi, les citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense. Encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue pour ce Tous au poste du mercredi 31 mars. Une émission aujourd'hui présentée eh bien, par Lucille Sébastien, Christian Coste et aux manettes et au micro actuellement, Vincent Pourageau. Alors aujourd'hui, un seul invité dans ce Tous au poste, il s'agit de Philippe Vilmus et il nous exposera bien comment la gauche se servira des stratégies d'entreprise pour gagner en 2012. Il sera interrogé eh bien, par Christian Coste, ce sera donc la seule interview de ce Tous au poste, ce sera à midi 20. Et puis, eh bien, nous écouterons la nouveauté de la semaine. Nouveauté de la semaine, c'est Copson. Et puis, eh bien, il y a aussi les fameux bons plans que Lucille et Sébastien vont nous donner tout de suite maintenant.
Et nous commençons ces bons plans tout de suite en musique. Ce soir à 20h au Rockstore, retrouvez New York Ska Jazz Ensemble, groupe new-yorkais de ska. Ils se sont formés en 1994 et ils réinterprètent les standards du jazz. L'entrée quant à elle varie de 15 à 18 euros.
Soirée dansante à l'Apollo Jazz Café à partir de 20h30. Venez danser sur la musique de DJ Zucchero au rythme de la salsa. 20h30 à l'Apollo Jazz Café, 129 avenue de Palavas. L'entrée est libre.
On passe au slam maintenant. One Beat Two Bush et scène ouverte aux slameurs de tout poil. Ça se passe à 21h30 au bar de la Pleine Lune. L'entrée est libre.
Le festival hybride se poursuit ce soir, 19h. Parmi de nombreuses représentations proposées, découvrez Artefacto de la compagnie catalane Senior Serrano, une pièce sur le thème de la création naturelle et l'action de la nature. C'est d'actualité et c'est ce soir, 19h, au théâtre Jean Villard. Entrée 11 ou 7 euros. Retrouvez également le reportage sur Artefacto demain, 11h30, sur Divergence FM.
Théâtre maintenant, conservatoire d'art dramatique. Bruno Gesselin mettra en scène Paysages de fantaisie, tiré du texte de Tony Duvert. La représentation se déroulera à 19h à la maison Louis Jouvet. L'entrée est libre.
Vous l'avez remarqué, aujourd'hui c'est mercredi, vos bambins traînent dans vos pattes. La semaine dernière, vous n'aviez pas souhaité les amener au compte de la planète aux bonbons. Pas de soucis, il n'est pas trop tard, allez-y aujourd'hui, 16h au Théâtre de la Plume, 6 rue Guillaume Pellissier, prix de la place de 4 à 7 euros.
Et dans le cadre de l'Agora des Savoirs, conférence sur le thème Montpellier au Moyen-Âge, les débuts d'une grande cité. Ça sera mené par Daniel Leblévec, professeur d'histoire à l'université Paul Valéry. Ça se déroulera à 20h30 à la salle Rabelais. L'entrée est libre.
Et si vous préférez les toges et les orgies, l'Antiquité aurait dû être votre époque. Allez donc à la conférence de Philippe Montbrun, maître de conférence en histoire à l'université Paul Valéry. 18h30 à l'auditorium du musée Fabre. L'entrée est libre.
De 17h à 19h à la librairie Sorams à Odysseum, rencontrez Philippe Vilmus sur le thème de son livre « Comment la gauche peut-elle gagner en 2012 ?» A noter que nous recevons l'auteur dans quelques minutes, il sera au micro de Christian Coste.
« Eh bien merci Lucille et Sébastien, des bons plans un peu expéditifs. Ils reviendront demain dans le Tous au Poste. Donc effectivement, dans quelques instants, nous allons entendre Philippe Vilmus qui va s'expliquer au micro de Divergence. Mais avant, eh bien, on va écouter la nouveauté de la semaine. Nouveauté de la semaine, c'est Copson avec leur album qu'ils ont d'ailleurs présenté. Eh bien, c'était vendredi au Rockstore et c'était en direct sur Divergence. On avait eh bien mis tous les moyens de notre côté pour vous faire partager ce grand moment. Et on continue du coup cette semaine, cette fois-ci avec la version album. On va écouter le quatrième morceau de cet album qui s'intitule Copson. C'était le nouvel album de Copson sur Divergence.
Tous au poste, interview.
Et bonjour, tous au poste. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Vilmus. Mais qui est Philippe Vilmus ? Philippe Vilmus, on le reçoit pour on va répondre à la question de qui est, mais on le reçoit parce que il vient de publier chez Erol un ouvrage dont le titre est « Comment la gauche peut-elle gagner la présidentielle en 2012 ?» Et voici, qui rentre dans les studios, Jean Ibanez qui va participer avec moi à cet entretien avec Philippe Vilmus. Alors, je le disais, Philippe Vilmus, qui est-il ? Moi, je dirais simplement que... c'est un homme d'entreprise qui a un petit peu viré sa cutie, pour faire simple. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a eu un parcours école supérieure de commerce à Paris, qui après a pris des responsabilités dans un groupe agroalimentaire et puis dans un grand groupe industriel de produits de beauté, de cosmétiques, etc. Et puis qui a travaillé au comité d'organisation aux côtés de Michel Platini pour France 4. 98 et d'autres choses encore certainement, et puis qui un jour a dit il y a peut-être autre chose que la vente, le profit et l'entreprise. Voilà ce que je perçois moi de Philippe Vilmus et comment je vous le livre, chers auditeurs de Divergence. Il va nous dire si c'est ça. Bonjour Philippe Vilmus.
Bonjour les auditeurs.
Quand je vous présente comme un homme d'entreprise qui a viré sa cutie, ça vous va?
Qui a viré sa cutie, je sais pas, mais en tout cas qui a changé de vie, oui, pour faire autre chose, qui pense que l'argent n'est pas tout, ça c'est sûr.
Parlez bien devant le micro, comme ça.
L'argent n'est pas tout, ça c'est sûr.
Ça,
j'en suis intimement convaincu.
Alors vous avez eu des responsabilités sur le plan mondial, dans un grand groupe. Donc là, on était sur le business, la valeur ajoutée, la marge et le profit. Et vous vous êtes rendu compte que c'était pas des valeurs qui construisaient en fait. Mais vous le saviez peut-être dès le départ.
Je le savais un peu dès le départ, mais j'avais besoin d'avoir la preuve factuelle.
Alors, donc, je disais, on vous reçoit aujourd'hui. On va parler pendant ce Tous au poste de cet ouvrage que vous sortez. Je le disais, comment la gauche peut-elle gagner la présidentielle en 2012 ? Et je le disais, Jean Ibanez qui est un des divergents, deux divergences depuis de nombreuses années, philosophe, professeur de philo, et qui vous avez reçu à plusieurs reprises déjà à Divergence. Vous vous connaissez bien tous les deux.
Bah oui, on a déjà parlé.
Salut,
foot,
Jean.
On a parlé rugby, on a parlé richesse ensemble.
Tout à fait.
On a beaucoup parlé rugby ensemble.
Tout à fait. Ouais. Donc oui, ce qui est passionnant avec Philippe Vilmus, c'est que il a plus d'une corde à son arc et qui s'intéresse à des tas de choses différentes. En tout cas, il y a une chose qui est très claire avec Philippe Vilmus, c'est que il y a toujours la dimension humaine, toujours qui est là, et l'approche par exemple sur le rugby, c'est une approche anthropologique. Il y a toujours quelque chose qui est pris par, à mon avis, par le bon bout. C'est par le côté humain.
Alors pourquoi on vous reçoit sur comment la gauche peut-elle gagner à propos de ce livre ? Pas simplement parce que on est spécialement à gauche ici, parce que nous on n'est pas ni spécialement à gauche ni spécialement à droite ni spécialement neutre, etc. Mais le titre est bien vendeur. On sent que vous avez bien fait vous avez des bons titres à chaque fois. Vous auriez pu, je vous le disais, écrire comment la droite peut-elle gagner la présidentielle en 2012, mais vous avez choisi la gauche. Donc je ne vous poserai pas la question, Philippe Vilmus, êtes-vous de gauche ? Et parce que c'est pas le propos.
Non, puis j'y répondrai pas.
Et vous n'y répondrez pas. Seul l'isoloir et vos intimes le savent.
Exactement.
On va rentrer dans le vif de ce livre. Quelle est l'idée du livre, hein ? Ce que vous dites dans ce livre, globalement, si je fais une synthèse, je parle sous votre contrôle. C'est l'idée que pour gagner une élection comme la présidentielle, il faut une stratégie. Il faut des tactiques, un plan stratégique, et on peut se servir, et c'est ce que vous proposez dans ce livre, des plans stratégiques d'entreprise appliqués à une équipe de bataille pour gagner une élection, car c'est une bataille. Et vous expliquez tout le long du livre comment on peut s'y prendre. C'est à peu près ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que quand on veut, dans une démocratie avancée comme l'est la France ou les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre ou d'autres pays, si on veut conquérir le pouvoir, et avant de l'exercer, pardon, il faut le conquérir. Alors c'est une différence entre exercer le pouvoir et conquérir le pouvoir. Or, conquérir le pouvoir dans les démocraties, c'est une compétition, une bataille, parfois une guerre. Et ça demande donc un plan stratégique et une tactique.
D'accord. Et vous dites alors, dès le départ du livre, vous dites les opposants les plus virulents aux idées qui vont être énoncées dans ce livre auront beau jeu d'affirmer qu'un candidat n'est ni un paquet de lessive, ni un logiciel informatique. Et nous leur donnons raison sur ce point.
Ah oui, tout à fait. Je pense que la stratégie, c'est pas simplement traiter de l'image, du superficiel. C'est avant tout traiter du fond. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce livre n'est surtout pas un livre de communication politique ou de publicité politique, puisque j'explique, selon moi, c'est la thèse que je défends, on peut ne pas être d'accord, c'est qu'avant l'image, avant le candidat même, j'ai pas dit que le candidat ne comptait pas, mais avant l'image et avant le candidat, c'est le corpus idéologique, c'est le fond qui l'emporte toujours. Et moi, je veux défendre fortement, plus on m'interroge sur ce livre, plus c'est quelque chose que je dis maintenant. Moi, je ne crois pas du tout que c'est la fin des idéologies. Au contraire, je crois que c'est vraiment les idéologies. Si vous permettez, je vais citer juste un exemple américain. Obama-McCain, c'est pas que des différences de couleur, de peau, ou des différences de capacité oratoire. C'est, d'un côté, il y en a un qui est pour la guerre. D'autres, il y a quelqu'un qui est contre la guerre en Irak. C'est pas d'image, ça. La guerre pour la guerre, contre la guerre. Il y a quelqu'un qui est pour la peine de mort, contre la peine de mort, contre l'avortement, pour l'avortement, pour le système de santé, contre le système de santé. C'est pas de l'image, c'est de l'idéologie pure et dure. Et en France aussi, moi, je pense qu'il y a un vrai débat idéologique à avoir. Pour gagner la présidentielle, quel que soit le bord auquel on se situe, certes, il faut avoir un candidat, il faut avoir de la tactique, de l'image, des communicants, etc. Mais il faut avoir un projet politique clair, cohérent, fort. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le projet, ça, c'est une autre affaire. Mmh. Et j'explique, selon moi, la défaite de la gauche aux trois dernières présidentielles, non pas par un manque d'image ou de candidat, mais par un manque de projet idéologique clair. Clair. Et la force du candidat 2007, Nicolas Sarkozy, après ce qu'il en a fait, ça c'est un autre débat, c'était qu'il avait un projet idéologique, politique très très clair, plutôt ultralibéral, plutôt dérégulateur, etc.
Carrément. D'ailleurs, vous dites, alors page 151 du livre, hein, je cite, l'idéologie économique et sociale de Nicolas Sarkozy, accroissement des inégalités, crise économique et financière, augmentation du chômage, fiscalité en baisse, uniquement pour les riches, pression sur les libertés de la presse, ascendant sur certains médias audiovisuels privés, style de gouvernance ostentatoire, non-respect des promesses de campagne, démantèlement de la santé, des services publics et de l'État protecteur, éloignement de la jeunesse, etc. Bon, c'est sûr que vous ne répondez pas à la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais bon...
Jean. Non, mais par contre, ce que vous êtes en train de dire, moi, j'en suis tout à fait persuadé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les deux derniers candidats, quand même, des élections présidentielles, des dernières élections présidentielles, c'est quand même des candidats qui ont fait beaucoup sur leur manière, leur discours, sur leur campagne, sur du sondage. C'est-à-dire, à partir du sondage, ils ont déterminé des types de discours, des thématiques de discours. Et donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est le contraire.
C'est pas tout à fait ça. Alors, d'abord, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la candidate socialiste, Ségolène Royal, a fait ce que vous dites, c'est-à-dire une campagne avant tout d'image, de discours, de forme, et donc elle a manqué de fond, alors que je pense que le candidat Nicolas Sarkozy a fait certes lui aussi du discours, de l'image, mais avait un fond idéologique très très clair. Ouais. Le programme qu'il a annoncé, il l'a plutôt respecté, c'est ça que je veux dire. Après, si les résultats ont conduit à ce que j'écris là, ça c'est autre chose. Ouais, mais objectivement, ce qu'il a annoncé, il l'a fait. Et c'était très clair. C'était le bouclier fiscal, le désengagement de l'État. Bon, voilà, il a tenu certaines de ses promesses. Si les résultats sont mauvais, ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose. Mais il avait un corpus idéologique très, très clair. Le travailler plus pour gagner plus, c'était pas simplement un slogan. C'était une réalité sur les heures supplémentaires, etc.
Non, parce que, par exemple, sur les valeurs, moi, il y a un moment qui a été un moment très fort à l'époque de Mitterrand. C'est quand, juste avant les élections, on demande à Mitterrand, il sait que la peine de mort, et majoritairement en France, on était pour la peine de mort. On lui pose la question juste avant les élections. On lui dit, est-ce que vous êtes pour la peine de mort? Il défend le projet d'abolir la peine de mort en France, alors que c'est antipopulaire et que ça peut jouer contre lui.
Tout à fait. si vous voulez, alors pour revenir sur ce problème de ce qu'on appelle en économie l'offre et la demande, faut-il imposer son offre, hein, je construis ma voiture ou mon cosmétique et puis après je cherche à le vendre quoi qu'il arrive. Ou alors il y a des entreprises qui font ça, on peut citer une grosse multinationale qui fait des colas, elle ne cherche pas à savoir si le goût plaît à la masse, elle a fait son produit, son goût, sa formule, sa couleur, et elle le vend, elle le cherche à l'imposer. C'est ce qu'on appelle une démarche impérialisme. Avec un petit écho à ce que disait Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. C'est-à-dire, je cherche à imposer aux consommateurs, aux clients, mon offre. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la démarche marketing inverse. Je pars de la demande, de ce que veulent les clients pour leur fabriquer le produit qu'ils souhaitent. En politique, c'est la même chose. On a deux extrêmes en politique. Vous avez la démagogie, ce qui est prendre les gens pour des gogos, en fait, démagogie, c'est-à-dire ne faire que ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là, il y aura encore la peine de mort, peut-être, en France. Et puis, de l'autre côté, il y a imposer sa vision. Et moi, ce que je pense, c'est que pour gagner l'élection présidentielle, vous êtes obligé de faire les deux, mon colonel. Un candidat qui ne tiendrait absolument pas compte de la réalité de l'opinion publique, même avec une bonne vision, mais si cette vision était en décalage avec ce que veut l'opinion publique, perdrait l'élection présidentielle. Mais je pense aussi qu'un candidat qui serait purement démagogique, qui n'aurait pas de vision, perdrait aussi l'élection. Donc la force des grands candidats, ce que j'appelle un grand candidat, c'est ceux qui ont gagné. Ouais. Hein, dans mon langage, c'est un peu dur, mais celui qui a gagné, c'est Mitterrand, Giscard, Chirac, le premier, en tout cas celui de 95, et le Sarkozy de 2007, qui avaient une vision. Et tout en tenant compte, bien sûr, aussi des réalités économiques, environnementales, sociales du pays. Après, si ce qu'ils ont promis ou dit pour être élus n'a pas été tenu, ça c'est un autre débat, c'est un autre, j'allais dire, un autre livre.
Donc il y avait un plan tactique et un plan stratégique, pour revenir à votre livre. Il y a vraiment une stratégie, mais qui ne peut pas ne pas prendre en compte la tactique.
Tout à fait. Alors, en 2007...
Je vous interromps, on peut faire la différence entre stratégie et tactique pour que tout le monde comprenne bien.
Oui, alors la stratégie, quand j'explique à mes étudiants de master ou même qui sont en doctorat, qu'est-ce que c'est la tactique, je leur ai dit, il faut prendre en fait Peter Pan. Peter Pan de Walt Disney, à un moment donné, il y a les enfants perdus dans le dessin animé, ils vont attaquer les pirates. Alors il y a John, celui qui est l'intellectuel, avec le petit chapeau, les lunettes, il dit, on va les attaquer. Alors tous les étudiants, oui, on va les attaquer. Alors, il se lève, il dit, attendez, il nous faut une stratégie. Il nous faut une stratégie. Alors tous les petits enfants perdus disent, une stratégie, mais c'est quoi une stratégie? Une stratégie, c'est un plan d'attaque. Il nous faut un plan d'attaque. Effectivement, pour gagner l'élection présidentielle, il faut un plan d'attaque. D'ailleurs, en 2007, c'est la première fois à ma connaissance qu'un candidat à l'élection présidentielle, donc Nicolas Sarkozy, a utilisé les conseils de, je ne vais pas citer le nom, mais d'un grand cabinet de conseil en stratégie mondialement connu pour gagner cette élection. Donc, ce n'est pas seulement des communicants, ce n'est pas des publicitaires qu'il a. Un publicitaire ne peut pas vous faire gagner l'élection présidentielle parce que vous ne pouvez pas raconter des cracks à vos clients ou aux électeurs. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, je l'écris dans mon livre, je crois fondamentalement à la démocratie. Je crois que les gens, les électeurs, sont pas du tout des bœufs. Mais même ceux qui n'ont aucune instruction, qui sont dans la précarité, mais qui votent, les gens sont beaucoup plus raisonneurs et beaucoup plus intelligents et matures que l'on croit. La preuve, je vais vous donner deux preuves, c'est qu'en 81, une semaine avant l'élection présidentielle, et deux jours même avant l'élection présidentielle, tous les sondages d'image montrent que Mitterrand a une très mauvaise image dans ce pays et que Giscard a une meilleure image. Mais qui est-ce qui l'a remporté? C'est quand même Mitterrand. En 95, Édouard Balladur a la meilleure image de tous les candidats. Mais même à deux jours de l'élection. Et Chirac, même à deux jours de l'élection, a encore une mauvaise image. Mais c'est quand même Chirac qui va être élu. En 2001, Jospin avait une excellente image. Tout à fait. Mais au bout d'un moment, si vous n'avez pas de programme idéologique, politique clair, vous ne pouvez pas gagner l'élection. C'est pas comme avec, si vous fabriquez un yaourt avec la meilleure publicité du monde, des centaines de millions d'investissements à la radio, mais que votre yaourt, il a mauvais goût, les gens ne l'achèteront pas.
Oui, c'est ce que disent les publicitaires. On fait de la bonne com avec un bon produit. Donc, en fait, pour résumer, la stratégie, c'est je veux partir d'un point A à un point B. Donc, ma stratégie, c'est je veux aller en Amérique du Sud. Ben, je vais y aller, je vais me rendre à tel point. Et la tactique, c'est est-ce que je vais y aller en bateau à voile, en bateau à moteur, en avion ou à la rame.
Je vous ai donné effectivement la définition de Peter Pan, mais il faut que je vous donne l'étymologie. On va être un peu érudit, mais c'est pas grave. Stratégos, c'est stratos, l'armée, aegine, je conduis. C'était le chef de l'armée dans la Grèce antique. C'était toujours un magistrat, parce que les Grecs se méfiaient des militaires. Donc c'était un juge, en fait. C'était un magistrat, le stratège, qui était chargé de la conduite générale de l'armée à la guerre. La tactique, ça vient de techné. C'était l'art de disposer les soldats sur le terrain. Donc la tactique, c'est la campagne sur le terrain. Les meetings, les affiches, les interviews, les plaquettes, les sites internet, les réunions, etc. La stratégie, c'est l'orientation générale que l'on veut donner en politique à ce que sera le pays. En fait, la stratégie répond à la tactique. Qu'est-ce qu'on veut faire de la France ? Sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'école, sur le plan de l'égalité, etc., etc.
Alors, moi, j'ai une question. Vous dites dans le livre, il y a une petite page où vous titrez « On ne gagne pas sur un bilan ». Or, tous les observateurs sur les régionales, vous allez me dire « Régional, c'est pas pareil, c'est pas le présidentiel, présidentiel, il y a une incarnation, il y a quelque chose, il y a du pathos, il y a de l'émotion, il y a autre chose, quoi ». Et les régionales, ils ont vachement été réélus sur leur bilan. Hein.
Ouais, alors moi, je considère qu'en France, là, c'est très important, hein, parce que c'est pour ça que les régionales, moi, ça m'intéresse assez peu, parce que en France, il y a une seule élection qui compte, c'est la mère de toutes les élections pour avoir le pouvoir. Là, on parle de conquête du pouvoir.
Ah, vous n'allez pas accroître les baisse des abstentions sur les locales.
C'est la réalité. La seule élection qui compte en France, c'est l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que c'est la seule élection où on a des taux d'abstention qui permettent d'avoir des conclusions un peu mathématiques ou un peu scientifiques. On a entre 15 et 20%. L'année dernière, en 2007, on avait 15%. À partir du moment où vous avez plus de 30% d'abstention, il devient très difficile pour quelqu'un comme moi qui veut être rigoureux, qui veut aligner les chiffres, faire des comparaisons, des études, d'avoir des conclusions pertinentes. Alors, dans des élections où vous avez presque un votant sur deux, vous ne pouvez tirer aucune conclusion. Ce que l'on peut dire, moi je le vois dans mes études et tous les sondages l'ont montré, pour les régionales, c'est que les gens de droite se sont plus abstenus que les gens de gauche. Alors, est-ce que la gauche est majoritaire ? Je n'irai pas jusque-là après. En France aujourd'hui, ça, c'est une autre paire de manches.
Alors, si on revient à la stratégie, parce que c'est quand même toute une partie... Enfin, c'est pas tout le livre, mais c'est organisé autour de ça. C'est-à-dire que c'est sans stratégie et en s'appuyant totalement... Vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy a pris un cabinet... un cabinet conseil pour se faire aider et des communicants aussi, mais une élaboration d'une stratégie. Donc pour la gauche, les deux trois éléments de base dans la stratégie pour la conquête du pouvoir en 2012, ce sont lesquels?
Alors
parce que s'il y en a 10, c'est plus une stratégie. Voilà. Hein, idée adhésive au départ.
Alors il y en a une, c'est les 3 R. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que c'est que les 3 R. Ça commence par R. C'est facile à retenir pour vos auditeurs.
Ça, c'est les méthodes de marketing.
Les 3 R. Mais il faut partir d'abord d'un constat. Le constat, un diagnostic. Quel est le constat de ce qu'on va appeler le marché électoral des électeurs? Il y a deux constats très très dur pour la gauche dans ce pays. Une tendance structurelle de la population française, je vais vous l'expliquer, et puis une tendance structurelle aussi de l'électorat. La première tendance structurelle, c'est que la population vieillit. Et là, les chiffres sont implacables. Plus on vieillit, plus on vote à droite. Plus on est jeune,
devient conservateur.
Plus on vote à gauche.
On a froid, on a peur.
Alors là, les chiffres sont terribles. Au-dessus de 60 ans, Nicolas Sarkozy a fait presque 70%. Sur les 30%, il était largement minoritaire. Le problème, c'est de même que plus on vieillit, les plus de 75 ans même votent encore plus à droite. Or, les jeunes s'abstiennent plus que les personnes âgées. Alors, pourquoi les personnes âgées votent plutôt à droite ? Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de patrimoine et de religion. Patrimoine, c'est que c'est à partir de 60 ans.
Donc d'âge un peu. Hein
c'est à partir de 60 ans qu'on acquiert un patrimoine important. Donc, on est beaucoup plus préoccupé par la transmission, l'héritage. Donc, on vote plus à droite. Et puis, il y a aussi une question de religion qui va s'accentuer à partir de 2020 en France. C'est que traditionnellement, les catholiques, à 80%, là, les chiffres sont 80% des catholiques votent à droite. Or, la France des années 60, les gens qui étaient adultes et qui avaient 30-40 ans étaient très imprégnés de catholicisme. Et aujourd'hui, ils ont plus de 60 ans. Par contre, avec la sécularisation de la société française et le déclin de la pratique religieuse, ce qui est aujourd'hui un handicap chez les personnes retraitées pour la gauche, deviendra un avantage dans 20 ans. Mais dans 20 ans, à long terme, comme dirait Keynes, on est tous morts. Donc, il ne faut pas trop compter sur le futur. Mmh. Donc, le vieillissement de la population, dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, est un atout considérable pour la droite et une faiblesse structurelle pour la gauche. Donc, premier constat. Deuxième élément du constat, il s'est passé au début des années 80 quelque chose de dramatique. Quand je dis ça devant des militants PS, il y a un gros silence dans la salle. Non, on ne jette pas
des tomates. Quand il dit devant des militants PS, il a fait, je vous le dis pour vous qui ne voyez pas parce que nous sommes à la radio, il a fait un geste en nous désignant Jean et moi. Alors je précise aucunement militants PS.
Quand j'ai une foule devant moi, il y a un petit silence là sur ce que je vais dire. C'est que il s'est passé quelque chose qu'on appelle un retournement électoral en sciences politiques, qu'on appellerait une restructuration de marché si on était dans une entreprise. C'est que jusqu'au début des années 80, la classe populaire démunie ouvrière votait Parti communiste dans son extrême majorité. Et le Parti communiste en France est évolué entre 20 et 30%. Il avait fait en 1974 un peu plus de 15%. Et puis une date précise, c'est assez rare qu'on puisse identifier un fait sociologique comme ça par une date. La date, c'est que 1984, ce sont les premières élections européennes à la proportionnelle. Et en 84, le Parti communiste tombe moins de 11% et la France découvre une extrême droite qui s'appelle le Front National qui passe au-dessus des 10%. Qu'est-ce qui s'est passé dans le retournement électoral? Ce retournement est très très important. C'est qu'une partie des classes populaires démunies, ouvrières, qui votaient Parti communiste, votent aujourd'hui extrême droite et Front National.
Et le troisième point?
C'est les deux grands constats, ça veut dire que la gauche, pour reprendre le pouvoir, il faut, un, qu'elle arrive à attirer les retraités en situation difficile et qu'elle arrive à reconquérir les classes populaires, ouvrières, démunies, aux périphéries des banlieues, dans les zones et en difficulté, pour pouvoir espérer l'emporter.
On va parler de ces trois R après, à avoir fait une pause de publicitaire. Mais non, je déconne, il n'y a pas de publicité sur Divergence, une pause musicale.
Baltimore à Babel West, je l'ai bramé dans les basses trinques avec un brin et bipède qui vendait pas pour les burlingues. Dans ce vent branché bipolaire, faire basculer les belles-mères, j'ai le besogne et le brouillard avec un tambour de bazar.
T'as les bavés pour les babas et les broutards à boucle blonde, des petites bulles de baraka
et des pommes pour les jets.
Les bonbons, faut faire un break. Y'en a ras le bol de ces blancs mecs qui vendent pour le bas ou pas pour la bagarre de Bromba.
Il se braque un bloc sur un baston, des barbes bleues bardées de bronze, des cobayes bourrés de béton, des zombies bidons et des bonzes. Il leur balance une plaquette à écrabouiller les boquettes.
À vous briser les roubignoles, à vous faire barrer de la boussole.
pendant que tu brûles de la banquise, braconnant le bonheur sans but.
Et me baignant de quatre bises avec les poupons de peste et pute.
Baby boom boom, baby boom boom, vous faire un mouet. Y'en a un bloc de ces blancs becs qui banquent pour le bas ou pas pour la bagarre et prend le bas.
Ah, Brigitte Fontaine et Brigitte Fontaine, j'adore. Elle est pas toute seule, mais elle, je l'adore. On revient avec vous, Philippe.
Elle est dans
Vilmus.
Les plus de 60 ans, elle aussi, non?
Ah bah oui. Elle est cohérente jusqu'au bout, j'adore. On adore énormément la divergence. Bon, ça va, je l'ai assez dit. Alors, on revient, Philippe Vilmus, sur les fameux 3R, et après on va revenir sur la gauche qui a perdu les classes dites populaires, on va expliquer ça. Alors, les 3R, hein, on en était là tout à l'heure.
Donc, en tenant compte du vieillissement de la population et du fait que une partie des classes populaires vote aujourd'hui à droite, pour gagner l'élection présidentielle, selon moi, la gauche doit appliquer les 3 R, c'est-à-dire retenir, recruter, regagner. Retenir, c'est retenir l'électorat qui a voté pour la gauche en 2007. Voilà. C'est comme toute entreprise, d'ailleurs. Une radio, si elle veut progresser, d'abord, il faut qu'elle retienne ses auditeurs existants. Voilà. Je retiens mes électeurs qui ont voté pour moi en 2007. Malheureusement, ça ne suffit pas, puisque la gauche est structurellement minoritaire dans ce cas de figure. Deuxièmement, il faut recruter. Il faut recruter chez les abstentionnistes, chez les jeunes qui vont commencer à voter, qui auront plus de 18 ans en 2012, et recruter chez les adversaires, en particulier, à mon avis, le centre. Mais ça ne suffit pas non plus. Même avec ce schéma, elle reste minoritaire, la gauche. Ce qu'il faut, c'est qu'elle regagne ce qu'elle a perdu. Et ce qu'elle a perdu, je le répète, c'est quoi? C'est l'électorat populaire, démuni, banlieusard, qui vote massivement, majoritairement extrême droite aujourd'hui, ou qui a voté aussi, grâce à un discours très musclé, Nicolas Sarkozy en 2007. Donc l'équation est compliquée. Retenir, recruter, regagner.
Alors regagner, hein, parce que je pense que là, on touche à l'essentiel. Regagner. Vous avez évoqué le fait qu'une partie de cet électorat populaire a basculé dans l'extrême droite.
Ouais.
Donc il y a des raisons. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons sociales. Alors, votre interprétation, c'est quoi?
Alors là, il y a deux choses. Il y a à la fois une tendance de l'économie, c'est-à-dire qu'effectivement, on va vers une tertiarisation avec des emplois précaires en ciseaux. On va vers une économie en ciseaux. D'un côté, des professions libérales, des traders, des avocats très bien payés. Et puis de l'autre côté, des intérimaires, des livreurs de pizza, des laveurs de voitures qui sont en situation de précarité extrême, peu syndiqués, peu impliqués dans des groupes qui sont au contact de la précarité. Mais souvent, ils ne votent pas. Et puis par contre, vous avez une partie des gens de plus de 50 ans, des plus de 60 ans, ces fameux retraités communistes ou retraités ouvriers qui, eux, vivent dans des zones qui ont été un peu laissées à l'abandon par les hommes politiques et qui sont au contact des banlieues où la vie est difficile et qui ont soit des problèmes de sécurité réelle, soit un sentiment d'insécurité, mais qui, en période électorale, le sentiment d'insécurité, il vaut le problème de sécurité. Or, les hommes politiques de gauche ont laissé tomber ce terreau. Est-ce qu'on les voit, les leaders socialistes, les François Hollande, les Ségolène Royal, aller dans les zones difficiles? Ils ne peuvent pas y aller. D'abord, s'ils y allaient, ils seraient reçus à coups de pierre, comme les gens de droite. Et or, ce terreau est un terreau naturel de la gauche, puisque ce sont des gens en situation difficile, qui gagnent peu d'argent, qui ont des faibles retraites, qui ont une vie, qui manquent de services publics, d'attention du reste. Personne n'ose s'aventurer sur ce terrain, mais il va falloir que quelqu'un y aille. La force d'Obama, vous savez pourquoi Obama il a été élu quand on regarde les chiffres, c'est que le taux d'abstention a légèrement baissé. Vous savez qu'à l'élection présidentielle, le taux d'abstention aux États-Unis est de 50%. Il a été un peu plus faible en 2007. Et qui a voté plus? Ce sont les jeunes noirs des ghettos, qui ne votaient jamais, en fait, qui ne votaient jamais. Alors, ils ont sûrement voté à cause grâce à la couleur du leader. Mais c'est ces 2, 3, 4% de jeunes noirs qui ne votaient jamais qui a fait sûrement grandement basculer l'élection aux États-Unis, entre autres.
Oui, il y a un gros travail qui a été fait aussi dans tous ces quartiers sur auprès des églises aussi.
Oui, alors il y a
ce qu'on n'a pas en France.
Voilà, ce qu'on appelle les outreach.
C'est la double communauté. Voilà,
les outreach stratégies aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on envoie des leaders différents vis-à-vis de différents types de populations pour conquérir cet électorat.
Bon, alors là, on revient à la stratégie, à la tactique, dire au PS donc comment la gauche peut-elle gagner le présidentiel en 2012 en lui disant attendez, là il vous faut reprendre vos marques sur une catégorie de population c'est les classes populaires, le début de la classe moyenne, encore que maintenant les marges sont en train de bouger avec le déclassement structurel. L'idée c'est que on y va et on fait comment?
Alors,
l'idée, c'est chouette, mais le comment, parce qu'il y a un décalage.
C'est-à-dire qu'il faut avoir un programme aussi, il faut avoir des propositions concrètes.
Un objectif. Parce que normalement, la gauche doit combattre la pauvreté, pour revenir à un livre.
Donc la gauche devrait normalement combattre la pauvreté, mais selon moi aussi, la gauche devrait combattre le problème, je suis obligé d'y revenir, de sécurité ou de sentiment d'insécurité. Il faut plus se voiler la face. Mmh. C'est un problème majeur. Il a tellement été majeur, c'est qu'en 2002, il a même éliminé le candidat de gauche. En 2007, je pense que la présidentielle s'est décidée avant tout sur l'économie. Par contre, en 2002, sur la sécurité. Or, qui a dit que la sécurité n'était pas un thème de gauche? Alors, moi, je n'aime pas le mot sécurité. Je préfère utiliser le mot qu'utilisait Mitterrand, c'est celui que j'utilise dans mon livre, la protection des biens et des personnes. Mais la protection des biens ou des personnes, c'est ni un thème de droite, ni de centre, ni de gauche. C'est un thème universel. Surtout quand on sait que ceux qui sont le plus exposés à ce manque de protection de biens ou de personnes, ce sont les plus pauvres. Parce que le taux de criminalité, il n'est pas élevé à Neuilly ou à Passy, ou dans le 16e arrondissement en France, ou dans les quartiers chics des grandes villes de périphériques de province. Il est élevé dans les zones qui sont en difficulté, là où vit cet électorat populaire. Donc, il ne faut pas faire de la sécurité un problème tabou pour la gauche. Si c'est une réalité, la protection des biens et des personnes, ça doit être un des thèmes majeurs du candidat de gauche, selon moi, lors de la prochaine présidentielle. Sinon, ils ont perdu.
Alors vous dites aussi, moi je vais revenir un petit peu sur l'idée de l'entreprise, hein, parce que le livre tourne autour de cette idée que ce qu'on applique à l'entreprise, c'est-à-dire la stratégie d'entreprise, peut s'appliquer à la conquête du pouvoir, non pas à l'exercice du pouvoir. Il faut bien faire la nuance, attention, mais comment, attention, la politique c'est des idées, c'est pas, on l'a dit, hein, c'est pas des barres chocolatées, etc. Et alors vous écrivez dans le livre, au début du livre, page 71, le PS doit favoriser la libre entreprise, les entrepreneurs et les créateurs, tout en combattant toute forme d'économie prédatrice, je vais y arriver, symbolisée par la spéculation. Mais de fait, l'entreprise, elle est de fait prédatrice. Le rôle d'une entreprise, c'est de créer de la valeur ajoutée. Et dans cette valeur ajoutée, c'est de dégager le maximum, de maximiser les profits. C'est ça le rôle d'une entreprise. Sinon, vous vous mettez en société coopérative ouvrière de production, en association, etc. Dès que vous êtes une entreprise, l'objectif, c'est de faire de l'argent. Alors, on va parler de remettre le capital au service du métier, etc. Donc, il y a peut-être une contradiction dans les mots, dans la façon de proposer la chose, là. Et c'est là aussi, peut-être, où la gauche, elle bug. C'est-à-dire qu'elle a voulu réconcilier la gauche, les gens de gauche avec l'entreprise. Or, il y a peut-être un problème sémantique, là.
Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la stratégie de l'offre et la stratégie de la demande qu'on évoquait tout à l'heure. On y revient. Là, on est sur un des points fondamentaux. Pour moi, le deuxième point idéologique important, c'est ce problème de la protection des biens et des personnes. Le deuxième, c'est l'idéologie économique. Où est-ce que je place les curseurs fiscaux, les curseurs sociaux et quel type d'économie veut-on? Alors, il y a d'abord un problème pour la gauche vis-à-vis de la droite, c'est que de l'extrême droite jusqu'à, je dirais, presque l'intégralité du Parti socialiste, l'ensemble des partis politiques et donc des électeurs qui votent pour eux sont favorables à l'économie de marché. Vous êtes d'accord avec moi? Je répète, du bout de l'extrême droite jusqu'à presque le bout du Parti socialiste, tout le monde croit à l'économie de marché. Donc toute la droite a le même cursus idéologique. Par contre, de l'extrême gauche jusqu'à cette aile gauche du Parti Socialiste, on n'a pas fait ce qu'on appelle le Bad Godesberg. Le Bad Godesberg, c'est une petite station thermale près de Bonn où le Parti Socialiste allemand a renoncé à l'idéologie marxiste tout en croyant à la social-démocratie. Or, il y a toute une partie de cet électorat que je ne critique pas, c'est peut-être eux qui ont raison, mais en croyant toujours à l'écologie, à l'économie marxiste et en renonçant à l'économie de libre entreprise, de par ce fait-là, se privent du pouvoir. Puisque la majorité des Français sont pour l'économie de marché. Peut-être que leur idéal est juste, le problème c'est qu'ils ne seront jamais élus parce que les gens n'y croient pas. Donc il faut que le Parti Socialiste soit très clair là-dessus. Est-ce que l'on croit à l'économie de marché ou pas ? Moi je crois que, oui, il faut croire à l'économie de marché. Pour une raison, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux dans le monde aujourd'hui pour créer de la richesse. Et pour pouvoir redistribuer de la richesse, il faut d'abord en créer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une forme d'économie de marché. Il y a l'économie de marché telle que Reagan ou telle que le candidat Sarkozy l'a vendue en 2007, une économie ultralibérale fondée sur la spéculation, la déréglementation à outrance, la fin des services publics, le désengagement de l'État de la sphère économique, éducative, sanitaire. Et puis, il y a une économie régulée qui redistribue beaucoup, une économie à la scandinave où les prélèvements obligatoires sont les plus forts du monde. Et on a le moins de chômage et le plus de croissance, finalement. Donc, on voit bien que ce n'est pas la même chose.
On y revient toujours au modèle suédois.
Et donc ce débat sur l'économie doit être clarifié extrêmement fortement par le futur candidat de gauche qui veut gagner la présidentielle. Sinon, on ne peut pas gagner une élection présidentielle en déclarant pas fortement ce que l'on va faire sur le plan des impôts, de la santé, de l'économie, etc., etc.
D'accord. Alors donc, l'idée, c'est travailler sur les soucis qu'on a les uns et les autres, les unes et les uns, sur la protection des biens et des personnes, là, sur l'idéologie économique. Et puis après, il y a la personne qui va porter le projet. Alors vous dites, vous, dans le livre, que, à la rigueur, la personne, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le projet. Or, on s'aperçoit que, juste, et vous le dites aussi dans le livre, que l'élection présidentielle, elle est particulière. Il y a quelque chose de... je ne sais plus les mots que vous employez, mais enfin, on est dans...
À la fin, oui. Une espèce de... On reprend un peu ce que j'ai écrit sur le rugby, d'ailleurs. Je m'aperçois, parfois, c'est une forme de dramaturgie,
voilà,
de mythologie.
Voilà, c'est ça, la dramaturgie.
De monter en puissance, ouais. Comme une Coupe du Monde de rugby ou de football, où les plus faibles sont éliminés jusqu'à la victoire du plus fort. Donc, même si vous m'avez dit en début, antenne, vous m'avez dit, moi, la compétition, ça me plaît pas trop. Mais si, mais le rugby, vous m'avez dit, vous aimez le rugby. On joue au rugby pour gagner, quand même, dans le match.
Tout à fait.
Donc, non, moi, je...
Il nous reste 3 minutes.
Je pense que le candidat est important, mais moins que le programme. Mais bien sûr que le candidat est important. Ce que je ne crois pas, c'est ce qu'on entend. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Alors ça, je dis dans mon livre, ça c'est de la fumisterie totale. Ça, c'est les gens qui disent ça, comme Dominique Villepin par exemple, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas de parti. Ça, c'était vrai, cette rencontre entre un homme et un peuple.
Il y a un autre argument, c'est le côté rassembleur. C'est ça, ce qu'ils disent souvent.
Voilà,
aussi.
Mais au début, de cet argument, la rencontre entre un homme et un peuple, était surtout valable au début de la Ve République avec De Gaulle. Mais depuis 1974, il s'est passé un changement radical dans la vie politique française, parce que ce sont des partis politiques qui imposent des candidats. Et depuis 1974, donc depuis maintenant 5 élections, il n'y a eu aucun finaliste parmi les deux qui n'était parti d'une grosse écurie. Voilà. Après, vous pouvez essayer de vous présenter sans parti. Je vous souhaite bon courage.
Il nous reste deux minutes. Vous dites aussi dans le livre qu'il n'y a pas d'obligation d'alliance pour les présidentielles.
Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas d'obligation d'alliance. Au contraire, moi, je recommanderais au parti majoritaire de la gauche, qui est le Parti Socialiste, de construire très fortement son programme, de choisir le meilleur candidat possible, quel que soit le processus.
De partir seul.
D'avoir une campagne rigoureuse, comme on la ferait dans une grosse multinationale, impeccable sur le fond. Mais partir seul, fort, mais seul, en ouvrant la porte, bien sûr, au second tour, en m'inspirant de ce qu'a fait Mitterrand. En 1974, Mitterrand part groupé. Il n'y a qu'un seul candidat de gauche. 43% au premier tour, presque le double du deuxième. Au final, il est battu. En 80, il part seul, émietté. Il fait beaucoup moins que Giscard d'Estaing au premier tour, mais il récupère les voix écologiques, les voix communistes, les voix radicaux.
Donc il passe. Le plan de Cohn-Bendit qui consiste à proposer, on part avec vous, mais vous nous filez 50 sièges après aux législatives qui
sera un mauvais plan selon moi.
C'est une mauvaise tactique.
C'est une mauvaise tactique. La preuve, c'est que même si je vous ai dit que les régionales étaient peu symboliques, mais sur le plan du parti unique, l'UMP, on voit les résultats que ça a fait pour eux.
Catastrophique.
C'est une catastrophique.
Eh bien, on arrive au bout de cet entretien, Philippe Vilmus. Ça passe toujours vite quand on reçoit des invités qui ont des choses à dire et qui ont bossé leur sujet. Donc, ça fait plaisir. On suggère la lecture de ce dernier ouvrage de Philippe Vilmus, comment la gauche peut-elle gagner les présidentielles en 2012 aux éditions Erol. Philippe Vilmus, merci d'être une fois de plus venu nous parler à Divergence de vos activités diverses et variées.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Ainsi s'achève le Tous au poste de ce mercredi 31 mars. C'était donc Philippe Vilmus pour son ouvrage qui était au micro de Jean Ibanez et de Christian Coste. C'était la seule interview de ce jour. La nouveauté de la semaine, c'était Cobson. Et puis les bons plans vous ont été présentés par Lucille et Sébastien, nos deux stagiaires. Alors je vous annonce le programme à suivre sur Divergence. Tout d'abord les crocs d'Olivier Nothal à 13h20. Il sera question aussi de politique. Ensuite c'est Cinérama à 13h30. Pendant une heure, c'est... l'actualité cinéma, mais aussi tout ce qui concerne le cinéma. Vous m'y retrouverez en compagnie de Martin. Cuisine et décadence, c'est à 16h50. Radio Homicide, le concentré d'horreur, c'est à 16h59. Et oui, parce que ça dure une minute. Le temps d'aller jusqu'à RFI à 17h. Ensuite, la rediffusion de Tous au poste, c'est 17h10. La rediff de Cinérama, c'est à 18h. 24 notes par seconde, ça continue avec le cinéma, puisque ce sont les bandes originales de films à 19h. Et puis l'Agora des savoirs, eh bien, c'est une retransmission en direct des conférences qui ont lieu à la salle Rabelais, c'est à 20h30.